tous que la grâce et la paix de notre Dieu le Père et de Jésus-Christ soient sur nous. Nous allons le glorifier en ouvrant notre parole de Dieu, notre Bible, car la Bible c'est la vérité et nous nous basons sur cette vérité. Et il n'y a rien plus haut que la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous lui faisons confiance. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile de Jean. Chapitre 20. On va lire à partir du verset 19. Jean 20. À partir du verset 19. Les soirs de ce jour, qui étaient les premiers de la semaine, c'est la résurrection, hein, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient enfermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans leur joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je n'y croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Et Thomas s'est trouvé avec eux. Jésus vint, les portes étaient fermées, se présenta au milieu d'eux et il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la de mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu as vu, tu as cru. » Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ces livres. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Voilà. Le titre du message, c'est « Pourquoi croire ?» Pourquoi croire? Imaginez-vous un instant que vous étiez là dans cette chambre haute, une chambre fermée, parce que comme on vient de le lire, ils avaient peur. Et tout d'un coup, voilà le Seigneur qui arrive. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est que le Seigneur il leur a donné cette paix. Mais voilà que il y a quelqu'un qui manque, Thomas. Et automatiquement, une semaine après, lorsque Thomas y revient, il voit les gens qui sont contents, qui sont heureux. Et il a dit, « Mais alors les gars, qu'est-ce qu'il arrive? Pourquoi êtes-vous si heureux ?» Il a dit, « On a vu le Seigneur. » Il a dit, « Non, non, je ne crois pas. » Que si je vois et je mets ma main sur toutes ces blessures. Et c'est là qu'une semaine après, le Seigneur, il arrive. Et il ne lui fait aucun reproche. Il l'appelle seulement et lui dit, Thomas, viens ici. Mets ta main, touche. Il a dit, tu crois parce que tu as vu. Mais heureux, c'est lui qui... qui ne croit pas et qui croit, qui ne voit pas et qui croit, pardon. Voilà, c'est ça, heureux. Vous savez, si on demande à n'importe qui, il dit, vous connaissez Thomas ? Ah oui, c'est celui qui, hein, qui ne croyait pas, qu'il faut voir pour et toucher pour croire. Mais je ne sais pas si vous connaissez bien Thomas. Nous aussi, en tant que chrétiens, n'est-ce pas ? Lorsqu'on parle de Thomas, on est ramené à cela. Il y a même les incroyants que, ah, je suis comme Thomas. Ils ne connaissent même pas l'histoire, mais ils disent, pourquoi ? Parce qu'ils savent que. Mais savez-vous que Thomas, il a été quelqu'un qui a montré sa foi en Jésus-Christ. Regardez, toujours dans l'épître de Jean, on aime bien critiquer Thomas. Hein? Mais regardez chapitre 11 de Jean. Voilà, c'est le chapitre qu'il parle de la résurrection de Lazare. Et au verset 5, il dit, « Or Jésus aimait Marthe et sa sœur, et Lazare. Lors donc qu'il lui a appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était, et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs... » les Juifs, tout récemment, cherchaient à te lapider. Et tu retournes en Judée ? » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour ? Si quelqu'un marche pendant les jours, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. » C'est-à-dire, retournons en Judée. Pourtant, il y avait les Juifs qui devaient le tuer, qu'ils voulaient le tuer. Et c'est là qu'encore une fois, on voit Thomas. Mais alors allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons nous aussi afin de mourir avec lui. Il y a une différence de ce Thomas qu'on connaît, n'est-ce pas? Jésus, il dit, je vais retourner en Judée, mais Seigneur, ils vont te tuer là. Alors lui, je vais aller avec toi. Il a exhorté les autres, allons mourir avec lui. Vous savez, c'est marqué Thomas Didyme. Didyme, ça veut dire jumeau. Et je crois que nous sommes des jumeaux de Thomas. Parce que des fois, en tant que chrétien, nous avons cette incrédulité, comme Thomas est là dans le chapitre 20. Si je ne mets pas, si je ne touche pas, ça c'est l'incrédulité. Des fois, nous sommes incrédules. Nous voulons voir, nous voulons toucher. Mais ici, Thomas, il dit, on va mourir avec lui. Restons avec le Seigneur Jésus. C'est ça ce que nous devons manifester dans notre propre vie. Thomas, oui, il a eu de l'incrédulité, mais c'est celui qui l'est premier. Il a dit, suivons le Seigneur Jésus. Et c'est exactement ce que le Seigneur il nous demande à nous qui sommes des chrétiens. J'ai été crucifié avec Jésus. Et il y a un autre épisode dans lequel on trouve Thomas, et c'est au chapitre 14, toujours dans Jean. Vous connaissez ce chapitre 14, hein? C'est un encouragement pour chacun de nous, qui sommes des chrétiens. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous savez le chemin, dit Jésus. Thomas, toujours lui, Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Voilà les doutes de Thomas. Jésus, il dit, vous connaissez le chemin. Et Thomas, il dit, mais nous ne savons pas. Qu'est-ce que tu nous racontes, Seigneur? Et c'est là que le Seigneur, il leur montre encore plus avec ce verset que tout le monde il connaît. Hein? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Qu'est-ce qu'il a fait ici, Thomas? Il a mis en doute les paroles qu'il avait déjà entendues. Il a mis en doute ce que le Seigneur il nous dit. Et combien de fois, nous sommes comme Thomas. Nous sommes comme Thomas. Nous mettons en doute ce que nous lisons. Nous mettons en doute les promesses de Dieu. Mais encore une fois, comme je vous ai dit, la seule source sûre, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu pour nous. Et chaque fois, je vous l'ai déjà dit, est-ce que nous croyons à ce que nous lisons? Tout à l'heure, le frère, il nous a montré, il nous a parlé d'Élie, n'est-ce pas? Cet homme-là, qu'il a été nourri par les corbeaux. C'est le Seigneur qui lui a dit même d'aller à tel endroit, à côté de ce fleuve. Mais à un certain moment, ce fleuve, il n'y avait plus d'eau. Et le Seigneur, il était fatigué, il est fatigué, très fatigué. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit, lève-toi et marche. Mais Seigneur, j'ai faim, j'ai soif. Lève-toi et marche. Et il s'est levé et il l'a envoyé à Sarepta. Vous connaissez la suite. Hein? Voilà pourquoi le Seigneur nous parle dans sa parole. Et nous devons le suivre en toutes choses. Oui, nous sommes des jumeaux de Thomas. Nous avons de l'incrédulité. Nous avons du courage en voulant suivre notre Seigneur et notre Sauveur contre tout et contre tous. Et des fois, nous avons des doutes. Et ces doutes-là, encore une fois, ce n'est pas péché avoir des doutes. Mais c'est ce qui compte, c'est qu'on revient à la parole de Dieu. Et qu'on s'est dit, Dieu, il dit ça dans sa parole, et malgré ça, que je n'y crois pas, j'ai la garde. C'est ça. Et le Seigneur, il dit, heureux ceux qui croient sans m'avoir vu. Aujourd'hui, nous ne voyons pas Jésus, n'est-ce pas? Quelqu'un a vu Jésus? Non. Mais nous l'avons vu avec les yeux du cœur, dans sa parole. Donc, la parole, c'est exactement la même chose. Et vous savez, dans cette parole, nous avons tout ce que nous avons besoin de savoir. Et pourquoi cette parole, au verset 31, qu'on vient de lire, hein, dans Jean 20, le verset 31, mais ces choses qui sont ici, dans la parole, ont été écrites. Pourquoi faire? Afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie éternelle. Vous savez, en lisant la parole de Dieu, il y a deux réponses. La première réponse, c'est un rejet. Voilà, oui, tu me parles de la parole de Dieu, des fois cette parole elle est trop sèche, des fois c'est des impératifs que nous on peut pas y croire, et des fois des gens ils disent je veux voir la manifestation de Dieu dans ma vie, je désire qu'il arrive quelque chose dans ma vie. Alors oui, je peux croire en Dieu, un peu comme Thomas. Le rejet, deux réponses. Hein? La deuxième réponse, c'est une acceptation. Oui, la parole de Dieu, Dieu nous a donné ce livre. Ce livre, nous l'avons entre les mains. Je ne comprends pas tout. Je ne comprends pas tout. Je ne peux pas tout comprendre. Mais je sais une chose, c'est Dieu qui me parle et je lui fais confiance et je crois. C'est la seule chose que nous devons faire, ou la rejeter ou l'accepter, même si on ne comprend pas tout, même s'il y a des choses qui sont difficiles à comprendre. Hier, on a vu une pièce de théâtre, pour ceux qui l'ont vue. Il retraçait l'histoire de la libération de l'esclavage. Et il y avait cet Aaron, n'est-ce pas, voilà, qu'il était énervé contre les Blancs pour tout ce qu'il lui avait fait, hein, mais il a connu le Seigneur, hein, il avait cette haine à lui-même, mais à la fin, à une Blanche qu'elle haïssait parce qu'il a rencontré le Seigneur, il a dit « Je te pardonne ». C'est ça ce que le Seigneur nous demande. C'est ça ce que le Seigneur nous demande. Et il y a deux façons de répondre à la parole de la Bible. Soit l'accepter en tant que parole de Dieu, soit encore une fois la rejeter. Et encore une fois, au verset 31, il y a deux choses qui sont très importantes, mais ce qui se trouve écrit, que vous croyez en Jésus, qui est le Messie, le Fils de Dieu, il y a deux choses. Nous croyons en quelqu'un. Nous mettons notre confiance en quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, qui est le Messie, qui est le Dieu fait chair. Et deuxième chose, nous croyons en Jésus. Pourquoi? Voilà, ça c'est une question que beaucoup de monde nous pose. Pourquoi est-ce que vous croyez en Jésus? Jésus n'est pas un simple homme. Il n'est pas un simple prophète, même s'il était prophète. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a sorti des bonnes pensées. Non, Jésus, c'est Dieu fait chair. C'est le Messie. C'est celui que Israël il attendait, mais pas seulement pour Israël, mais pour le monde entier. D'ailleurs, Jean, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés d'Israël, du monde. Voilà, merci ma sœur, tu es là. Hein? Les péchés du monde, pas d'Israël. Jésus, il est venu pour servir, il est venu pour sauver les gens. D'ailleurs, il y a eu un certain moment, quelqu'un il s'est présenté vers Jésus, il lui a dit, « Dis à mon frère qui partage son héritage avec moi. » Et Jésus lui a dit, « Qui m'a envoyé pour te donner ce droit ? Je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Pas les choses du monde. Devons-nous payer les impôts ?» Jésus, il a dit, « Donnez à César ce qu'il y a à César, et à Dieu ce qu'il y a à Dieu. » C'est ça qui intéressait Jésus. Et c'est ça qui doit nous intéresser. Et il dit, « Nous croyons pour une raison. » Pourquoi ? Parce qu'en lui, nous avons la vie. C'est ce qu'il nous dit, le verset 31. Nous avons la vie. Et il dit, quelle est cette vie? Qu'est-ce que ça veut dire avoir cette vie? La première chose, c'est que nous sommes pardonnés définitivement. Si nous croyons en Jésus, il a pris sur lui nos péchés. Nous qui méritions les châtiments, les jugements, les juges qui est Dieu, il ne nous rend plus compte de nos péchés. Pourquoi? Parce que tout a été mis sur le dos de Jésus. Le pardon des péchés. Et c'est à la croix que Jésus, il accomplit cela. Pour chacun de nous. Pour chacun de nous. Et c'est pour ça que nous devons croire en Jésus. Parce qu'il a donné sa vie pour nous. Et à travers sa vie, nous recevons le pardon des péchés. On l'a vu ce matin à travers cette femme, cette sœur, Marie, n'est-ce pas? La mère de Jésus, qu'aujourd'hui les gens, ils élèvent plus haut que ce qu'elle, ils souhaitaient. Mais nous devons encore tenir sur la parole de Dieu, ce que dit la parole. Et la parole nous a dit qu'il n'y a aucun juste ici-bas. Et Jésus, par ce sacrifice, il nous a acquis le pardon. Nous ne sommes plus sous les jugements de Dieu, parce que Jésus, il l'a pris sur lui. Voilà pourquoi nous devons croire en Jésus. Il est mort à notre place. Il est mort à notre place. Deuxième, que ça veut dire avoir la vie? C'est aussi avoir une espérance pour l'avenir. Quelle est l'espérance de nous qui sommes des chrétiens? Que le Seigneur revienne, qu'il nous enlève et que nous soyons éternellement avec lui. Quelle est l'espérance du monde aujourd'hui? Ceux qui n'ont pas Jésus-Christ, ils n'ont aucune espérance. Ils vivent les jours, mangeant et buvant, demain nous mourrons. C'est ça, mais notre espérance, même devant la mort, nous sommes dans la joie. Pourquoi? Parce que nous savons où est-ce que nous allons, nous savons qui est-ce que nous rencontrons. Bien sûr, tout autour de nous, ceux qui nous aiment, ils sont dans la tristesse. C'est normal. Mais ils savent où est-ce qu'on va si on est chrétien. Et ils sont aussi dans la joie. Parce qu'on part à notre résidence principale. Ici, c'est notre résidence secondaire. Mais le principal, c'est au ciel, avec notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Il nous l'a dit dans Jean 14, je vais vous préparer une place. Il y a un cantique qui dit, notre place est réservée. C'est le Seigneur Jésus qui a fait ça. Hier, quand on a été au théâtre, on arrive, il a dit, vous avez réservé? Non, on n'a pas réservé. Et il nous dit, bon, vous gardez ici. Mais notre place au ciel est réservée. Lorsque nous allons mourir, nous passerons directement, parce que notre place, elle est réservée. Il y a notre nom écrit. Le Seigneur, il a dit, il est notre bon berger, et il connaît le nom de tous ceux qui lui appartiennent. Il y a beaucoup de gens qui disent, j'appartiens au Seigneur. Seigneur, nous avons fait des miracles avec toi, pour toi. Nous avons propagé. Et le Seigneur, il a dit, je ne vous connais pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu cette relation intime avec le Seigneur. Il ne faut pas seulement croire dans le Seigneur, mais il faut avoir cette relation intime. D'ailleurs, dans Amos, il y a ce verset qui dit, « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. » Donc, ça veut dire qu'il y a une préparation à faire. On ne peut pas se présenter devant Dieu sans être prêt. C'est un peu comme il y a un examen. On n'a jamais étudié, on ne sait jamais pas, on se présente à ses mains. On ne l'aura pas. Prépare-toi. Ça veut dire qu'il y a une préparation à faire. Et la préparation qu'il faut faire, c'est se tourner vers Jésus-Christ. Car c'est son sacrifice sur cette croix qui nous donne cette espérance vivante. Lorsqu'on nous dit, est-ce que tu es sauvé? Où est-ce que tu vas après la mort? Si nous avons Jésus, nous disons, mais je vais au ciel. Il m'a préparé ma place. Parce que je l'ai accepté en tant que Seigneur et Sauveur. Mais si tu n'as pas Jésus, quelle assurance tu as? Voilà pourquoi il faut avoir cette espérance. Et ça, et c'est ça la vie éternelle. Oui, j'ai la vie éternelle aujourd'hui, mais je ne la vis pas comme je vais la vivre au ciel. Nous avons la vie éternelle en espérance. Lorsque nous mourrons, nous aurons cette vie. Et c'est une vie, une espérance, toute différente de celle qu'on vit aujourd'hui. Mais cela seulement si nous croyons en Jésus, en ce qu'il est, en ce qu'il a fait, et en ce qu'il fera. Et en ce qu'il fera. Car le ministère de Jésus, il n'est pas terminé. Il est notre souverain sacrificateur. Et dans les cieux, il est là qu'il intercède pour nous. Ça veut dire quoi? Que lorsque nous tombons dans les péchés, Jésus est là. Vous savez que lorsqu'on est dans les péchés, Satan, il est là pour nous accuser. C'est toi un chrétien? Tu te dis chrétien, regarde ce que tu viens de faire. Mais le Seigneur Jésus, il est là. Et en plus, il intercède pour nous. Il prie pour nous. Si le Seigneur ne prierait pas pour nous, nous serions pires que les plus grands criminels. Pire. Mais le Seigneur prie pour nous. Il a prié pour Pierre. Il a dit, Satan, il voulait te cribler. Mais j'ai prié pour toi. Voilà pourquoi il est revenu. Parce que le Seigneur, il a préparé le chemin. Il a prié pour lui. Il lui a donné la force nécessaire. Judas, par exemple, quand il a reconnu le péché qu'il a fait, il est retourné au souverain sacrificateur. Il leur a jeté l'argent qu'on lui avait donné. Il a dit, j'ai donné le sang d'un innocent. Et le souverain sacrificateur, il a dit, on s'en fout. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il n'avait aucune espérance? Il s'est pendu. S'il se serait tourné vers le Seigneur, il l'aurait sauvé. Parce que le Seigneur, il ne rejette personne quand il reconnaît son propre péché. C'est ça le... Les gens, ils te disent, oui, j'ai commis trop de péchés. Dieu, il ne veut plus me pardonner. Dieu ne peut pas me pardonner ses péchés. Le sang de Jésus, il peut purifier tout péché. Tout. Une seule chose, c'est l'incrédulité. Si tu ne crois pas, il ne peut pas te sauver. Parce que pour croire, pour être sauvé, il faut croire. Et ensuite, nous avons été pardonnés, nous avons une espérance et nous avons une nouvelle vie. Et de maintenant, et cette vie sera là-haut dans le ciel, mais nous devons la vivre maintenant. Pourquoi? Parce que quand on est de nouveau, lorsqu'on accepte le Seigneur Jésus, nous ne sommes de nouveau. Ce qu'il a été de chacun de nous, c'est terminé. Il faut qu'il y ait un changement. Il faut qu'il y ait un changement. Une vie nouvelle. Les choses anciennes sont passées. C'est encore ce qui s'est passé dans la pièce hier. Cet homme qui était en colère, à la fin, il a dit, il faut changer. Parce que le Seigneur est là. Je pardonne. Je te pardonne. Et pourtant, il méritait. Mais il avait le Seigneur. Il croyait dans le Seigneur. Il a dit, je te pardonne. C'est ça le jus de toute cette pièce. Quelqu'un qui ne croyait pas, il est arrivé à connaître le Seigneur, à faire confiance au Seigneur, malgré qu'il avait cette rage. À la fin, il a dit, je te pardonne. Pour qu'on puisse vivre une vie de paix. Et c'est de maintenant que nous devons vivre cette vie. La vie éternelle, ça sera là-haut. Et une vie toute différente de celle que nous vivons aujourd'hui. Sans péché, sans souffrance, sans peine. Rien de toutes ces choses-là. Et ça, c'est par cette vie que le Seigneur Jésus nous donne. Voilà pourquoi on doit croire en Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons croire. Le geôlier, il avait dit à Paul, « Que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Et Paul lui a dit, « Ben, crois. C'est la seule chose qu'il faut faire. C'est la seule chose qu'il faut faire. Voilà, si nous croyons, nous sommes encouragés. Parce que nous avons... la vie, l'espérance et nos péchés, ils sont pardonnés. Ils sont pardonnés. Plus rien ne nous est reproché. Nous sommes déclarés justes. Et pourtant, la Bible dit qu'il n'y a pas de justes. Mais Dieu, il nous déclare justes. Ce n'est pas que nous sommes justes, mais il nous déclare justes. C'est quelque chose que nous ne méritons pas. Mais le Seigneur, il nous regarde et il nous dit, je te déclare juste, même si on n'est pas juste. Mais c'est le Seigneur qui agit dans la grâce envers chacun de nous. Et nous sommes encouragés à ne plus avoir, comme Thomas, des doutes sur ce que le Seigneur nous dit. Aujourd'hui, les gens, ils marchent par la vue. Je veux voir avant de... Un peu comme il a fait Thomas. Hein? Si tu existes, Dieu, manifeste-toi. Ces gens-là, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils demandent. Parce que si Dieu, il s'est manifesté, ça serait la fin pour eux. Vous savez, à la première église, il y avait Ananias. et Saphira, hein, ils avaient menti et sur le moment, ils sont morts. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas dans le rassemblement des hommes qui avaient, ou des femmes qui avaient les péchés dans leur vie. Dieu, il manifestait sa gloire, sa puissance. Imaginez-vous s'il manifeste aujourd'hui comme alors. Combien resterait en vie? Et c'est ça que le Seigneur, il dit, que nous sommes encouragés. Nous tombons dans les péchés, oui, bien sûr. Mais le Seigneur, il agit comme il agit envers Thomas. Thomas, il était incrédule sur la résurrection de Jésus-Christ. Mais lorsqu'il s'est présenté 8 jours après, il a appelé Thomas. Et il n'a pas dit, hey, « Thomas, qu'est-ce que tu as fait là ?» Non, il l'a appelé, il a dit, « Viens, touche et vois. » Et il dit, « Tu es heureux. » Il a dit, « Mais encore plus heureux, c'est celui qui croit sans avoir vu. » Et nous sommes parmi ces gens-là. Nous n'avons pas vu le Seigneur Jésus-Christ, mais nous avons mis toute notre confiance en lui. Et c'est ça que le Seigneur, il nous demande. Si nous croyons, nous avons le salut. Parce que Jésus, il a accompli ce salut pour chacun de nous. Si nous ne croyons pas, ce salut, il est loin. Et ce qui attend, celui qui ne croit pas, c'est le châtiment éternel. C'est la punition pour ce que nous avons fait. Et c'est l'enfer. Cet endroit terrible. Cet endroit terrible. Pour l'éviter, il faut croire en Jésus. Hein? Nous avons, si nous croyons, nous avons le Seigneur. Si nous ne croyons pas, il faut dire comme il a dit Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. C'est-à-dire se tourner entièrement vers Jésus-Christ. Et c'est ça qui peut nous sauver. Et vous savez, ceux qui n'ont pas Jésus dans leur cœur, c'est encore temps. La Bible, il nous parle du présent avec le mot « aujourd'hui ». Vous ne trouverez jamais dans la Bible le mot « demain ». Pourquoi ? Parce que le salut, c'est « aujourd'hui », pas « demain ». Demain, on ne sait pas s'il sera là, n'est-ce pas ? Jacques, il a dit, pour ceux qui disent ça, « Ah, je vais le faire ». Non, Jacques, il te dit, si Dieu le veut, parce qu'on ne sait pas si on est vivant. On fait des projets, n'est-ce pas? Ah, dans une semaine, je serai là, moi, je serai là, je ferai ça. On ne sait pas. On peut mourir d'un moment à l'autre. Mais ce qui compte, c'est d'être prêt. Préparons-nous à rencontrer notre Dieu. Sommes-nous prêts à le faire? Jésus, il est toujours à l'œuvre et il peut sauver encore et maintenant même. Ce qu'il attend, c'est croire en lui, lui faire confiance. Et c'est ça que nous devons faire, c'est ça que nous avons fait et c'est ça que vous devez faire si encore vous n'avez pas le Seigneur Jésus dans votre cœur. Voilà, on va terminer avec le cantique 229. Entends-tu, Jésus t'appelle. En chantant ces cantiques, ne chantez pas comme vous connaissez par cœur et pas penser à ce que vous dites. Réfléchissez. Déjà, les titres doivent vous parler. Entends-tu, Jésus t'appelle. T'appelle. Vous n'avez pas à vous lever, à lever la main. Faites ça en vous-même. dans votre cœur. Reconnaissez que vous êtes des pécheurs. Tournez-vous vers lui, car c'est le seul qui a le nom par lequel on peut être sauvé. Car lui, il est mort pour nos péchés. Il t'appelle. Réponds-lui avant qu'il ne soit pas trop tard.